Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct dans la libre antenne de Dynamic Radio. All you need is love. Autour de la table, Stan, bonsoir Stan.
Bonsoir.
Oui, ça va?
Moi je suis, passe bien? J'aime, je suis amoureux, j'aime tout le monde.
Eh ben tant mieux, on va parler
vive l'amour.
En
plus c'est le printemps.
Très bien, Isabelle, bonsoir Isa.
Bonsoir.
Zaza, toujours.
Oui, Zaza,
toujours
Zaza,
le même, même surnom. Zaza est là. Oui,
Isabelle de Courbevoie, comment allez-vous?
De Courbevoie.
Ça fait très noble, ça.
Ah ouais.
Ouh là là.
De Courbevoie.
Comment allez-vous?
La classe, la classe.
Tout va bien?
Pitié. Oui, tout va bien.
Très bien. J. Warner en manette.
Oui, salut.
Salut
oui.
À toi, qui oui, nous permet de diffuser en direct ce soir également.
Oui.
Tu nous le confirmes,
oui,
nous sommes bien en direct.
Nous sommes bien en direct.
Eh bien, c'est l'occasion aussi de saluer nos auditeurs et nos auditrices. Ce soir, n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions, si vous en avez, à notre invité que nous allons présenter dans quelques instants. Avant de le présenter, je présente Père Henri, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Comment vas-tu?
Très bien.
Tu es avec nous pendant deux heures.
Avec
ce
joie.
Soir. Très bien. Et pour cette première heure, nous avons l'immense privilège de recevoir notre invité du soir, Thierry Véron Lacroix, le président fondateur de Familia. Bonsoir.
Bonsoir. Merci de m'accueillir. Ravi d'être avec vous ce soir.
Ben merci, merci à vous. Alors, qu'est-ce que c'est Familia?
Familia, ce sont des maisons qu'on ouvre en France pour prendre soin de la vie affective et relationnelle. En fait, c'est un peu des maisons de santé relationnelle pour prendre soin de sa vie de couple et de la vie de famille, de comment est-ce qu'on est parents, etc. Donc, vous verrez qu'il y a une offre très large dans ces maisons qui sont au nombre de 4, mais on inaugure 2 autres dans le mois qui vient.
D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut savoir où elles se situent actuellement?
La première, historiquement, est à Lyon.
Ok.
Elle a ouvert il y a 10 ans, et puis il y a 2 ans, on a ouvert à Paris, à Bordeaux, okay. Une antenne de Lyon dans l'Est lyonnais à mes yeux.
Okay.
Et puis on ouvre Roanne dans un mois, la semaine suivante Nancy.
Très bien.
En fin d'année Orléans, l'année prochaine Saint-Étienne.
Ouais. C'est un vrai succès.
On ne l'arrête plus.
Et puis il y a une dizaine de projets qui sont à l'étude d'ailleurs en France.
Ah, ouais. Beaucoup de travail, je m'imagine.
On est bien occupé.
On est bien occupé. Alors, de quel constat on part quand on crée Familia?
On est parti de plusieurs constats. Un, la famille est plébiscitée. Vraiment, première valeur pour les Français. En fait, quand vous demandez à des personnes qu'est-ce que vous souhaitez vraiment réussir dans la vie, ils vous disent à 90%, je veux réussir mon couple et ma famille. Voilà. Donc d'un côté, c'est plébiscité, première valeur pour les Français depuis toujours et même au niveau européen. C'est l'Université de Grenoble qui étudie ça et qui nous dit chaque année, tous les 8 ans, à peu près la même chose. Et puis, d'un autre côté, la famille est très fragilisée.
Aussi, oui.
Voilà, avec un taux de séparation pour divorce de 45%. En gros, c'est chaque année 425 000 séparations, 380 000 mineurs concernés par ces séparations.
Oui, quand même.
Et des conséquences sociales quand même lourdes, puisque c'est la première cause de pauvreté en France, c'est les séparations conjugales.
Et oui.
Oui.
Et puis, c'est la première cause de manque de logement aussi en France.
Ok, donc il y a un appauvrissement et il y a une lié aussi un petit peu au divorce. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas divorcer, en fait?
Exactement. Un appauvrissement, il y a une étude de Stratégie France qui vient de sortir qui montre que le taux de pauvreté est 2 fois plus élevé pour les enfants dans les familles monoparentales que dans les familles qui ont pu rester unies.
On l'entend, d'ailleurs.
Voilà.
C'est d'une logique implacable.
Effectivement.
Encore faut-il le dire.
Encore faut-il le dire,
parce
oui,
que
tout à fait.
Aujourd'hui, on ne le dit pas assez.
Oui, ça c'est sûr. Et vous êtes là pour nous le dire. Alors, il existe sans doute des mesures pour ne pas divorcer. Enfin, en tous les cas, pour que le couple dure.
En fait, se marier ou se mettre en couple avec l'idée que ça dure, aujourd'hui, vu l'espérance de vie, c'est s'engager pour passer 20 000 soirées avec la même personne.
20 000 soirées.
Environ. 3 000 week-ends.
Ça fait peur.
Il faut s'occuper.
J'ai un calendrier, il y a une en moins.
Du coup, il faut s'occuper.
Oh là là.
Du coup, en fait, ça serait un peu utopique de se dire tout va bien se passer pendant ces 20 000 soirées. C'est aussi utopique de croire que on tombera jamais malade de notre vie, quoi.
Ah bah ça c'est clair.
Il y aura des hauts et des bas.
Bien sûr.
Et c'est pas parce que on a une angine ou une grippe que la vie va s'arrêter. Et le couple pourra choper un virus, avoir une angine, une grippe, pour continuer sur l'analogie. Et pour autant, eh ben, il y a des choses à faire. C'est pas inéluctable. Je pense que la première chose, c'est déjà d'avoir conscience que l'amour, c'est pas une grosse caisse qu'on ouvre un jour parce qu'on tombe amoureux et puis on va puiser dedans, puis un jour, ça sera vide. Bon, l'amour, c'est quelque chose qui va se construire dans la durée et dont il faut prendre soin.
Et du coup, les maisons familiales, elles permettent quoi aux couples ?
Elles ont deux grands volets.
Ok.
Les aider à prendre soin de leur relation.
Ok.
Parce que très souvent, au début, on est amoureux et donc tout se fonde sur la relation. Et puis, on se met ensemble, on commence à vivre ensemble et la vie reprend ses droits, la logistique, les enfants, le travail, les contraintes, les accidents de la vie, la maladie, le handicap, le décès d'un proche, vient mettre un peu en difficulté le couple. En particulier, l'arrivée du premier enfant est très souvent déstabilisant pour le couple. Ça, c'est de plus en plus vrai par les temps qui courent. Et les conseillers conjugaux prennent souvent une image pour la famille. C'est-à-dire, c'est comme ces mobiles qu'on met au-dessus des lits des enfants. Vous voyez, il y a un fil, une baguette, un fil, d'autres baguettes, et puis des tas de personnages. Et ça tient en équilibre.
Ouais, c'est votre côté ingénieur de formation qui revient, là.
Un petit peu, mais en fait, l'image est vraiment venue de la formation en conseil conjugal.
Oui.
Et en fait, dès qu'on bouge un personnage,
tout se casse la fine, figure.
Tout doit prendre un nouvel équilibre. Alors, il y a deux options. Soit l'équilibre se prend tranquillement, soit, comme vous dites, tout se casse la figure, les nœuds se font entre les fils, et à un moment, parfois, il n'y a plus le choix, il faut couper les fils pour s'y retrouver.
Il faut dénouer d'abord, peut-être.
Ou parfois, on arrive à ce que cette transition soit douce, soit accompagnée, sachant que dans ce paysage, il n'y a pas seulement les enfants qui arrivent, ça peut être le travail qui est un nouveau personnage qui vient peser lourd, ça peut être la distance géographique, le célibat géographique dû au travail, ça peut être la maladie, ça peut être une épreuve temporaire qui vient déséquilibrer, et puis je disais, l'arrivée d'un enfant. Et donc, comment est-ce qu'on va trouver un nouvel équilibre pour prendre en compte ce qui se passe dans la vie sans que tout s'en mêle et qu'on continue à construire ?
Très bien. Une question du côté de Zaza ?
Oui, bah du coup, moi je me demandais quelle typologie de personnes vous accueillez au sein de vos maisons et qu'est-ce que vous conseilleriez, ces deux questions en une en fait, et qu'est-ce que vous conseillez, du coup, est-ce que vous conseillez de venir dans les maisons quand tout va bien ou quand tout va déjà mal ?
Alors, merci de soulever ce point-là. En fait, la relation aussi, pour prendre une autre image, c'est comme un jardin. Au début, on peut choisir une maison avec un jardin parce qu'on trouve le jardin magnifique. Et puis, si on s'en occupe pas, qu'est-ce qui va devenir ?
Bah,
Une friche.
C'est ça. Les mauvaises herbes, ouais, on frappe les différences entre le gazon et là où il y a des cailloux, etc.
Il y a plus de fleurs,
parce qu'on, la relation de couple, c'est la même chose.
Faut s'en occuper.
Si on n'en prend pas soin, et comme je disais au début, la relation est très présente, parce qu'on est bien ensemble,
oui.
Fait des trucs fun, etc. Puis la vie reprend ses droits et la relation décline au profit de la gestion de la marche courante. Et on s'aperçoit très souvent que les gens se séparent parce que ça fait très très longtemps qu'ils n'ont plus de relation, de conversation amoureuse en fait. Parfois on reçoit en conseil conjugal des personnes on leur dit mais depuis quelle est la dernière fois où vous avez abordé, vous avez une conversation sur ce que vous vivez dans votre couple. Et ils vous regardent d'un air bizarre en disant qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Comme s'ils comprenaient pas, comme si c'était vivre en couple, en fait, c'est comme dans les contes de fées, se marier, avoir des enfants, tout va bien. Comme si c'était naturel, alors que c'est le début de l'aventure. C'est le début où on commence à mieux se connaître, on n'aura jamais fini de connaître l'autre. Et donc, il faut entretenir cette relation. Et la vie fait que l'un part un peu à droite. Est-ce que l'autre va le suivre et l'accompagner et garder cette alliance? Ou est-ce que, ça crée un peu de distance? Et puis l'autre part un peu à gauche, est-ce que l'autre va le rejoindre ou pas ? Et tant qu'on prend pas soin de ça, où est-ce qu'on en est dans notre relation ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui est satisfaisant ? Et qu'est-ce qui est moins satisfaisant ? Ben, je vois bien, les enfants nous absorbent complètement, on n'a plus jamais de temps à deux. Bon, donc la tendresse disparaît, le temps de qualité à deux disparaît. Donc dans les maisons familiales, pour répondre à votre question, eh ben on va créer les conditions pour que les gens prennent soin de leurs relations. Donc la voiture, on l'emmène chez le garagiste dans deux situations. Quand il y a une panne, voilà.
Oui.
Et puis
pour la révision.
Et puis voilà. Pour la révision, alors que il y a pas eu de panne, mais on se dit tiens. Il faut peut-être changer l'huile, il faut changer la courroie de distribution.
On anticipe voilà. Les problèmes.
Et donc le couple, il faudrait avoir un peu la même logique, se dire ben effectivement on peut aller voir un conseiller conjugal quand ça va mal, et il va nous aider à nous comprendre, nouer le dialogue, sachant qu'il n'a pas d'intentionnalité sur le couple. On pourra y revenir sur ce qu'est ce métier et l'objectif. Ou on peut juste venir à un dîner à deux. Où on va être à une table, en amoureux, et les gens qui vont animer la soirée vont être un peu dans l'enseignement témoignage. Par exemple, il y aura un thème, par exemple, je sais pas, prenons l'équilibre, vie familiale, vie professionnelle.
Ok.
Et ben, on aborde.
Très d'actualité en plus comme thème.
Donc, les personnes, en général, elles prennent pas tellement le temps de se poser pour y réfléchir. C'est pas entre la poire et le fromage qu'on va aborder le truc, alors qu'il y a deux hommes, un enfant qui veut pas manger.
Oui, en effet.
Qui, voilà. Et donc,
c'est vous qui institutionnalisez le moment, en fait.
Exactement. On prend du temps, en fait. Un des slogans de Familia, à un moment, c'était « Et si vous preniez du temps pour vous, votre couple, votre famille ?»
Bah, c'est beau, ça.
C'est beau.
Mais nous, est-ce que c'est une école de l'amour, alors?
C'est un peu les maisons familiales, notre façon de dire ça, c'est une maison pour apprendre à aimer.
Et alors, on fait un stage, on fait quoi?
Alors je vais juste terminer sur apprendre à s'aimer soi. Je vais venir, hein. Je vais vous répondre premier. C'est apprendre à s'aimer soi, c'est-à-dire se connaître avec mes plus et mes moins, et m'aimer en dépit de mes moins. Je sais que j'ai à progresser là, mais c'est pas pour ça que je suis pas aimable.
Tout à fait.
Voilà. Ensuite, donc c'est tout ce qui est estime de soi, connaissance de soi, estime de soi. Donc on a des stages là-dessus, des parcours. Ensuite, il y a apprendre à aimer son conjoint, voilà.
Oui.
Et puis apprendre à aimer et éduquer ses enfants. Voilà, c'est quand je disais maison de santé relationnelle, c'est éduquer à la relation à tous les âges de la vie. Et on commence avec les 5-12 ans, connaissance de soi, des émotions, nommer les émotions. Et puis on va jusqu'au couple qui arrive à la retraite. Qui ont encore 6 à 7 000 soirées à passer ensemble, toujours.
Oh là là. Vous avez un ordinateur dans la tête pour les décompter en fonction de l'âge.
Vous étiez aussi statisticien à une époque.
Aussi.
C'est pour ça, alors.
Et donc, est-ce que c'est la vie qui va décider pour nous de ce que vont être ces soirées, ou est-ce qu'on prend le temps de dire qu'est-ce qu'on veut construire, comment on renouvelle notre projet de couple, qu'est-ce qu'on veut vivre pendant les 10, 15, 20 ans qui nous restent à vivre? Est-ce qu'on prend du temps aussi pour se dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi?
Dynamique Radio. La radio facile à écouter. Right now. All you
need is... Dynamique Radio, nous sommes de retour dans la libre antenne All You Need Is Love avec toute l'équipe et notre invité Thierry Véron-Lacroix, président fondateur de Familia. Vous avez des partenaires du côté de Familia également? Est-ce qu'on peut les citer là?
Oui, on a différentes associations qui interviennent dans nos locaux parce qu'ils ont l'expertise. Je pense à un mouvement qui s'appelle Vivre Aimé. Je pense à l'éducation affective sexuelle. Vous avez des choses qui s'appellent Mission XY, Cycle Show. On a des conseillers conjugaux qui ont été formés au Clair Amour et Famille ou à d'autres, dans d'autres lieux. À la FCC, CC, à...
Alors,
on travaille pas tout seul. Les parcours Alpha,
ouais.
Alpha Duo. Donc, pour les jeunes amoureux qui se posent des questions.
Qu'on a reçu sur notre
semaine dernière.
Ah, très bien.
Tout à fait, oui. Le parcours Alpha Duo, on en a parlé la semaine dernière. Un mot sur le métier de conseil conjugal.
Effectivement, c'est chouette qu'on puisse en parler parce que c'est un métier qui est peu connu, mais qui gagne à être connu. Voilà. En fait, pour continuer sur l'analogie de la santé, maison de santé relationnelle, pour moi, le conseiller conjugal et familial, c'est un peu le médecin généraliste du couple. Voilà.
Ouais, c'est ça. C'est bien dit.
C'est bien
ça. Vous avez d'autres métiers plus spécialisés qui vont correspondre aux chirurgiens, on va dire, les sexothérapeutes, etc. Mais là, je dirais, en fait, nous, on cherche à développer des maisons, mais notre rêve, je vais vous dire ce que c'est. c'est qu'en fait, il y a un changement de culture. C'est-à-dire que tout le monde se dise, effectivement, être en couple, il y a des hauts et des bas. C'est normal, à un moment, quand on est en difficulté, d'aller se faire accompagner. Il n'y a pas de honte. Voilà. En fait, quand on a un enfant malade, qu'est-ce qu'on fait? On prend son téléphone, on appelle le médecin. Quand on a une rage de dents, on appelle son dentiste. Et ben, mon rêve, c'est que demain, un couple qui se dit, ça fait 6 mois que c'est tendu entre nous, qu'on s'engueule beaucoup, trop en fait, ça devient difficile, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et ben, mon rêve, c'est qu'on prenne son téléphone, on prend un rendez-vous chez un conseiller conjugal, on fait 4-5 séances.
4-5 séances.
Et puis hop, la vie continue. Voilà. On a fait une étude d'impact social qui a malheureusement montré que la moitié des personnes qui viennent consulter, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en difficulté.
Donc c'est un peu... Oui, il y a des nœuds à dénouer, là.
Vous, vous attendez 2 ans quand vous avez une carie douloureuse pour aller chez le dentiste?
Non.
Non. Okay. Et en fait, voilà. Et on a des témoignages. Alors, nous, on est témoins de vies de couple transformées, renouvelées par les accompagnements qu'on propose. Pas que. Il y a des gens qui vont aussi vers une séparation, parce qu'on n'est pas là pour... absolument oui, faire. On est là pour les accompagner.
Accompagnateur, facilitateur.
Voilà. Et eux, parfois, bien. Voilà, on les accompagne. Ensuite, il y a de la médiation familiale, qui est un autre métier un peu similaire mais différent. Mais toujours est-il qu'en conseil conjugal, voilà, l'idée, c'est qu'on vienne pas quand le truc s'est déjà très enkysté, que ça soit pas infecté, puis qu'il n'y ait pas un truc grave à guérir, quoi. Et c'est pas assez connu, et on avait un témoignage, c'était très intéressant, un jeune couple qu'on a invité à témoigner, et elle a dit, mais bon sang, pourquoi on n'est pas venu plus tôt? Voilà.
Ah oui.
On a perdu du temps, ça fait 2 ans qu'on s'engueule, en fait, on serait venu, il y a 1 an et demi, on aurait gagné tout ce temps-là, on aurait mieux vécu notre relation, la qualité de la relation aurait été tout de suite améliorée.
Et c'est vrai qu'on peut se dire aussi, c'est plus facile finalement de divorcer ou de se séparer que d'aller voir un conseiller conjugal dans l'absolu, alors que non, il faudrait pas finalement, il faudrait avoir un petit peu... Parce qu'on a toujours tendance que c'est un effort. En effet, vous le dites, quand on a un mal de dents, ben on va voir le dentiste parce que ça devient insupportable. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion-là, et d'ailleurs c'est pour ça que vous êtes aussi là ce soir, pour communiquer auprès de nos auditeurs, auprès de notre audience sur les réseaux sociaux, pour vous dire, chers auditeurs, qu'il existe aujourd'hui des accompagnateurs de couple. Et en effet, bah, le conseiller conjugal, aujourd'hui, c'est un véritable accompagnant. Il est là pour dénouer des difficultés à l'intérieur même de votre couple, et même, je dirais même plus, à l'intérieur même de votre famille.
Tout à fait. En fait, le vrai titre de ce métier, c'est conseiller conjugal et familial.
Oui.
On a des tas de situations. Ça peut être dans le couple, des difficultés à communiquer. Ça peut être des relations de l'intime qui fonctionnent mal. Ça peut être... on a des couples qui sont venus en disant « Nos enfants vont pas bien, mais on pense que c'est parce que notre relation de couple est pas si bonne que ça. » Ça, c'est magnifique quand ils sont déjà à conscientiser ce niveau-là.
On sait que
le travail va bien se faire, quoi. Hein. Parce que c'est eux qui font le travail, même s'ils sont accompagnés, guidés, si le conseiller conjugal va poser des diagnostics, un peu en disant la façon dont vous adressez l'un à l'autre, etc. C'est son métier de diagnostiquer un peu ce qui se joue et ce qui dysfonctionne, sachant que il est centré non pas sur l'un qui fait mal ou qui va pas bien, ou l'autre qui fait mal ou qui va pas bien, c'est comment est-ce que ces gens sont en relation. Donc il est centré sur comment cette relation est nouée. Comment est-ce que les gens se parlent? Est-ce qu'ils sont en mesure de dire leurs besoins, d'exprimer des demandes plutôt que des exigences? Voilà, donc il faut intervenir, des techniques de communication non violente, etc., etc. Donc c'est tout un métier qui invoque la psychologie, la communication non violente, la connaissance des personnes. Voilà, c'est un métier assez où on est formé sur beaucoup de champs relationnels.
Est-ce que c'est plus facile d'être négociateur au GIGN ou alors...
facilitateur de couple.
Facilitateur de couple.
Bah, est-ce que tous les conseillers conjugaux ont la même facilité, je dirais, pour agir en fonction des couples? On peut dire certains conseillers conjugaux, je dirais, sont plus à même de faire pour tel type de couple et d'autres pour tel autre type de couple. Non, est-ce qu'on ne peut pas dire ça?
Ça peut arriver dans ces cas-là. En fait, quand on prend rendez-vous, on appelle quelqu'un. Souvent il y a un premier échange téléphonique pour prendre le rendez-vous. Alors c'est pas un échange téléphonique où on déballe tout, hein. On n'a pas le temps, c'est pas fait pour ça, on va pas faire un entretien au téléphone. Mais s'ils viennent avec une difficulté très spécifique,
clair, voilà, très clair.
Le conseiller conjugal il va peut-être dire, bah, écoutez, pour ce type de problématique, alors, je vais vous orienter plutôt vers un collègue qui est plus à même de ça. Très souvent, c'est lors du premier entretien que on va faire le point, faire le tour de piste et voir ce qu'il en est. Et à ce moment-là, il va peut-être dire, bah, écoutez, en fait, vous n'êtes pas tout à fait le même au bon endroit. Je vais vous orienter vers un sexothérapeute ou etc. Ouais. Mais il y a un premier temps d'écoute qui permet de poser le diagnostic.
Ce premier temps d'écoute, c'est pas chez vous que ça se fait au niveau des maisons familiales.
Alors si nous, on a des conseillers conjugaux, des médiateurs familiaux qui viennent pour des et donc les gens viennent en consultation chez nous. Donc on a aussi des points écoute pour des personnes qui sont en tellement grande difficulté que elles ont du mal à savoir ce dont elles ont besoin. Et c'est pas en 5 minutes au téléphone que... Donc dans ces cas-là, on leur dit, bah écoutez, venez, il y a un point d'écoute gratuit.
Voilà.
Par un professionnel.
C'est important de le préciser.
Ouais, voilà. C'est vachement bien.
Par un professionnel. Et ce professionnel, il va pas mettre la personne en travail psychique. Il va l'écouter, l'aider à prendre du recul, à ce qu'elle pose les différentes problématiques auxquelles elle est confrontée. Et à ce moment-là...
On prescrit.
On va dire, bah, écoutez, on vous oriente vers...
Telle ou telle structure.
Vers... Soit en interne, si on est capable de faire ça, mais on ne sait pas tout faire dans nos maisons, mais généraliste. Soit on oriente vers un
Vous avez un certain nombre de solutions, d'ailleurs, parce que il existe des couples pressés. Hein, et vous avez une solution, par exemple, pour les couples qui sont pressés.
C'est-à-dire pressé.
Ben, c'est-à-dire les couples qui travaillent tous les deux, qui sont dans qui rentrent tard le soir. Est-ce que par exemple, c'est une question qu'on nous pose. Est-ce que par exemple, des couples pressés, est-ce qu'il y a une problématique que vous arrivez à déterminer?
Ben, c'est eux qui vont amener la problématique que eux vivent. Quelle souffrance, quelle difficulté, quelle frustration.
Parce que c'est pas évident, hein, ce couple-là qui se retrouve, ne serait-ce que, bon, on parlait d'un certain nombre de nuits qu'on passe ensemble, mais finalement, quand on passe peu de temps ensemble, c'est difficile de créer de s'inscrire dans une relation aussi.
Voilà. Ça peut être une des problématiques du couple, mais parfois, un couple qui vit le célibat géographique va vous dire, non, on est en difficulté parce que on est tout le temps en désaccord sur l'éducation des enfants, par exemple.
Ah, bah oui.
Voilà. Pour ces couples-là, où globalement la relation va bien, excepté sur un sujet comme celui-là, on a aussi des consultations de conseil conjugal en visio.
Voilà, bah c'est là où on voulait en venir, parce que c'est pas couple pressé, c'est parents pressés. Ouais. Et quand on a peu de temps à consacrer à autre chose, vous avez donc des solutions en ligne.
Tout à fait, oui, oui. Certains de nos conseillers disent, bah, moi je reçois en consultation en ligne, chose qui s'est mise en place évidemment depuis le Covid, mais qui est rentré un peu dans les mœurs, et donc on répond aussi à ces situations, sachant que c'est des métiers où si on peut être en présentiel, c'est toujours...
Ah oui, c'est beaucoup plus simple, oui.
Plus facile, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le non-verbal,
dans la gestuelle, dans la posture, etc.
Voilà. Mais on est conscient que certains ont besoin d'entretiens en visio, donc on répond à cette demande.
On parlait du métier de conseiller conjugal. Est-ce qu'on... Vous parliez aussi de médiation familiale. Est-ce qu'on peut le définir?
Oui. Dans les grandes lignes, pour faire simple, le médiateur familial, il va recevoir des personnes qui ont déjà pris la décision de se séparer, de divorcer.
D'accord.
Okay.
Et donc lui, puisque là où le conseiller conjugal travaille sur la relation entre les conjoints, là, le médiateur familial, il va travailler sur la relation entre les parents. Ce qui est assez différent, puisque le lien conjugal, on y met fin. Donc, on ne va pas revenir dessus. Et par exemple, il va travailler très rapidement en disant, OK, vous n'êtes plus conjoint, mais est-ce que vous faites confiance à l'autre en tant que parent? Donc, il resitue le débat.
C'est une belle question à poser de suite, d'ailleurs.
Ça, c'est primordial. Voilà. Parce que quand je vois dans mes amis le nombre d'ex où ça se passe très mal, et notamment pour la relation, pour le faire confiance et la relation avec les enfants que chacun entretient de son côté, c'est, si les gens pouvaient se parler avant, je pense que ça éviterait beaucoup de tensions, beaucoup de disputes et beaucoup de conflits.
Mais que faire, justement, quand, dans une médiation, le médiateur arrête la médiation en disant « Moi, je ne peux pas continuer avec cette personne-là. » Parce qu'effectivement, on ne peut plus parler à ce monsieur, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Est-ce que ça arrive?
C'est déjà arrivé, ça?
Bah, ouais, j'ai déjà vu, oui.
Ouais. Ah, oui. Alors, normalement, le médiateur familial, à partir du moment où les deux sont prêts à venir en médiation, et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de viser des accords sur l'hébergement des enfants, sur la pension alimentaire, sur surtout des questions plus fondamentales et qui font moins l'objet d'accords que d'une entente, qui est comment est-ce qu'on va continuer à être parents ensemble alors qu'on n'est plus conjoint.
C'est ça.
Et voilà. Pour le bien de nos enfants respectifs.
Oui. Et qu'est-ce qu'on va continuer à donner à voir à nos enfants, voilà, sachant qu'il ne faut pas qu'il y ait la double peine, qui serait on se sépare parce qu'on s'engueule tout le temps, etc., et que on se sépare, donc on va avoir toutes les conséquences dramatiques de la séparation, des vies compliquées, de logement, la perte de revenus, etc.
Des biens à vendre, complications. Peut-être.
Puis, et en plus, on continue à s'engueuler. Alors là, on a tout perdu, parce que ce qu'on recherchait comme paix en se séparant, on l'obtient pas. Donc c'est la double peine. Ça, c'est vraiment terrible, ces familles-là.
Et puis,
les enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre aussi? Plein de choses quand les parents se séparent. L'insécurité affective. Papa et maman s'aimaient, ils s'aiment plus. Est-ce que demain, c'est moi qui vont plus aimer? C'est logique, hein, dans la tête d'un enfant. C'est une potentialité, et tous les enfants vivent pas ça, évidemment. Tout ce que je vais citer se cumule pas, et certains le vivent, d'autres non. Vous pouvez avoir le conflit de loyauté. Je suis rentré chez maman, je lui ai raconté le super week-end que j'ai passé avec papa, et ça l'a mise en colère.
La jalousie.
Tellement.
Ça l'a mise en colère.
Parce qu'en fait,
oui, ça veut dire que lui, au lieu de s'occuper du quotidien, etc., et c'est moi qui porte tout, et lui, il s'amuse juste avec les enfants, quoi. Et le mécanisme qui... Donc, qu'est-ce que va dire l'enfant? Maman s'est mis en colère, je vais plus lui raconter ce que j'ai fait de super avec papa. Voilà. Vous avez des tas de choses. Il y a les enfants boîte aux lettres. Tu diras à ta mère que...
Totalement.
Il y a les enfants...
C'est plus facile de transmettre les messages via ses enfants que...
Ouais, mais bon, c'est égoïste, hein.
Ouais, mais non, parce que normalement, on est censé pouvoir se parler, quoi.
Oui, mais en l'occurrence, ça peut arriver.
On est censé.
Et donc, la médiation familiale est faite pour permettre aux parents de renouer le dialogue. Si un médiateur familial met fin à la médiation, c'est parce qu'il y a quelques conditions qui doivent être réunies pour ça. Un, évidemment, que les deux parents soient d'accord pour venir en médiation.
D'accord.
On fait pas une médiation
tout seul.
C'est difficile.
Voilà, c'est évident.
Avec ses enfants.
Et puis, la deuxième, c'est qu'on estime que c'est une alternative à la justice. Soit on s'attaque en justice, à ce moment-là, c'est le juge qui décidera notre place.
C'est souvent.
Soit on dit non, on entre dans un processus de négociation.
C'est plus intelligent, ça coûte moins.
C'est comme quand vous levez le drapeau blanc pendant la guerre. S'il y en a un qui commence à continuer à jeter des bombes, le drapeau blanc, il s'arrête. Chacun part de la table des négociations.
Tout à fait.
Donc il y a des conditions à réunir pour qu'une médiation puisse s'engager. Si l'un met fin à ces conditions, ben forcément, le médiateur veut dire les conditions sont plus réunies pour qu'on continue. Donc, soit vous voulez revenir aux conditions initiales, soit on s'arrête.
Mais est-ce que la médiation, dans ces cas-là, peut être mise en place après le divorce, après donc la justice, comme vous disiez, mais pour essayer d'aplanir et de calmer les potentiels conflits des ex?
Ouais, elle a place à tout moment de la séparation. Okay. Vous avez des gens qui ont décidé de se séparer, mais qui, pour des raisons logistiques, sont obligés de vivre encore 6 mois ensemble dans le même appartement.
Elle qui dites-vous?
On peut. On
20
peut.
Ans même.
Oui, je vois de qui tu parles, Zaza.
20 ans ensemble.
Et donc, on peut dire, ok, qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour ces 6 mois où vous allez être quand même un peu encore l'un à cohabiter, quoi. Et puis, ça peut venir pendant la période de séparation, ou ça peut venir 5 ans, 10 ans après la séparation, où des questions nouvelles se reposent, les enfants sont arrivés à l'âge de l'adolescence, est-ce qu'il ne faut pas changer le mode d'hébergement des enfants, et puis là, les enfants ont plus droit à la parole. Un enfant
Totalement.
De 5 ans, on peut lui demander son avis, mais ce n'est pas lui qui décide. Sinon, il va rentrer dans une logique de toute puissance, etc. Donc, non, ce n'est pas les enfants qui décident, c'est les adultes. Ça, c'est la différence des générations, voilà. Mais quand un enfant commence à avoir 16 ans et dit, moi j'aimerais maintenant être en hébergement alterné chez papa et chez maman, comment est-ce qu'on peut l'entendre, etc. Ou pour des raisons, il change d'école, de lycée, c'est peut-être intéressant qu'on en reparle.
Oui, tout à
mais
fait.
On a du mal ensemble,
études,
donc faisons-le en présence d'un tiers qui va nous aider, qui va réguler le temps, qui va nous aider à avoir des techniques d'échange, de négociation, etc.
Alors, il y a des questions qui arrivent, et notamment le prix d'une consultation d'un médiateur familial ou voire d'un conseiller conjugal, les deux métiers sur lesquels nous sommes intervenus sur cette deuxième partie de l'interview.
Oui. Alors, vous avez des lieux comme à Familia où il y a des grilles tarifaires. qui permettent à tout le monde de, d'accéder à ça, en particulier toutes les associations qui font de la médiation familiale et qui sont agréées par la CAF.
Ok, donc là.
Elles appliquent une grille tarifaire qui commence à très bas, à 2 euros pour des gens qui ont 0 revenu.
2 euros de...
2 euros l'entretien. L'entretien.
Ah ouais, d'accord. Ah,
bah voilà.
Ah,
c'est... La plupart ont ça, des revenus autour des revenus ouais, médians. On va payer 20 à 25 euros la séance. Chaque parent paye de son côté en fonction de ses propres revenus.
Ok. D'accord.
Ah, ça, c'est vachement bien.
Ah oui, c'est aussi super démocratique. Ah,
ouais. Voilà. Et puis, ça monte pour des gens qui ont vraiment les capacités. Ça peut monter vraiment plus haut. Jusqu'à 100, même 130 euros pour les gens vraiment. Alors, oui, 5000 euros par mois net, bon, voilà. Voilà. Ils ont les moyens.
Ouais. Voilà. Ok, bah, c'est
et
très
puis,
bien.
Sinon, vous avez des libéraux qui, en général, font des tarifs autour de 60, 80 euros.
Ok.
Et le conseil conjugal, malheureusement, et ça, c'est, Familia fait un gros travail pour que demain, le conseil conjugal soit financé comme l'est la médiation familiale. Alors qu'actuellement, vous avez des associations comme Familia qui ont aussi une grille tarifaire pour se rendre accessible à tout le monde et que le prix ne soit pas un frein.
Oui,
voilà. Et puis, vous avez des gens qui sont libéraux, bah, qui gagnent leur vie avec ça et qui vont être autour de 60 à 80 euros la séance.
Ce qui reste
selon les lieux, vous trouverez certains qui disent « bon bah on va adapter, qu'est-ce que vous payez, ouais, pouvez payer, etc. » Mais là, il y a un gros déficit au niveau de l'État. Il accompagne les familles qui ont déjà pris la décision de
oui,
se séparer.
Ça, on l'entend
par contre,
tout le monde cette saison.
Il ne s'implique pas encore dans la prévention des ruptures ou dans l'accompagnement quand les familles vont mal. Mais quelques lieux...
Ça commence
tout doucement.
On a reçu les adjoints ou adjointes voilà, au maire en
qui
charge
en
de...
Alors à Viroflay,
tout à fait.
Voilà. Eux, mais sachez
voilà. À Asnières sur Seine aussi.
Asnières, mais au Danemark, deux tiers des communes financent le conseil conjugal.
Ah oui.
Et pour des raisons très pratico-pratiques, c'est pas nécessairement parce qu'ils veulent accompagner les couples. C'est au Danemark, le pays est petit et ils n'ont
ah
pas
oui,
plus de trouver des logements.
Ah.
Ils n'ont plus de place.
Ah
c'est la première cause de manque de logement.
D'accord.
Donc il y a aussi des raisons comme ça, très pragmatiques.
Ouais,
hein, il y a les deux. Hein,
Chantant de rester ensemble parce que si vous vous séparez, on n'a pas la place de vous trouver une baraque.
En fait,
ouais, c'est ça. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher à la société.
Vous voulez être à la rue.
Il y a ça aussi. Il y a ça que ça coûte très très cher à la société, les aides sociales, quand on est séparé,
bah oui,
séparé elles sont très développées pour les familles monoparentales, tout ça, on le sait. Hein. Oui. Sur 5 ans, pour un couple revenu médian, ça coûte 13 000 euros à la collectivité, une séparation, en aide directe. Hein. Je ne parle pas de tout ce qui est l'appauvrissement. Et pour autant, malgré ces aides, il y a l'appauvrissement dont on parle.
Oui, donc 20%
de baisse
c'est
de niveau
pas
de vie.
Si efficace que ça. C'est ce qu'on voulait.
C'est pas suffisamment efficace, mais quand vous avez deux loyers à payer, quand vous devez racheter tout l'électroménager, vous payez deux abonnements internet, deux machins, et ben voilà.
C'est un coût.
C'est un coût.
De retour dans la libre antenne, All You Need Is Love avec notre invité Thierry Véron-Lacroix, président fondateur de Familia. Alors, on voulait faire un petit panorama de tout ce qu'on peut retrouver dans ces maisons.
Oui, effectivement, il y a une palette. On essaye d'être présent à toutes les grandes étapes de la vie, en fait.
Voilà. Ok.
Et donc, vous l'avez compris, il y a toute la partie consultation, conseil conjugal, médiation, qui est de l'accompagnement plutôt en individuel, en couple, en famille. Et puis, il y a des parcours, des formations, des groupes de parole réservés à des situations spécifiques. Donc, je vous l'ai dit, une proposition à la vie en moi, découverte des émotions, gestion des émotions pour les jeunes enfants. On a pour les adolescents la connaissance de soi, l'estime de soi, et puis même l'orientation scolaire, Parcoursup, là, les parents sont pleins de bons moments.
Bon courage à tous. Qui s'arrachent les cheveux.
Bon courage à tous.
Oui, parce que.
Et puis ensuite, on a les parcours Alpha Duo que vous avez présentés, je crois, la semaine dernière.
Tout à fait.
Donc, aux jeunes amoureux qui se disent qu'est-ce que c'est que vivre à deux, qu'est-ce que ça implique, etc. Ensuite, on a les dîners pour prendre soin de sa relation. On a aussi des initiations au dialogue imago, je crois que vous avez fait une émission là-dessus,
ouais,
un des outils fabuleux pour prendre soin de sa relation de couple. On a des groupes de parole pour les mamans solo, des groupes de parole pour les mamans qui ont un enfant handicapé, des groupes de parole pour les couples en espérance d'enfant. Ça fait 3-4 ans qu'ils essayent d'avoir un enfant, c'est compliqué. Malheureusement, on a beaucoup de plus en plus de couples confrontés à ces questions-là. Et puis, on accompagne aussi les personnes qui ont vécu une séparation, des difficultés dans leur famille. Et donc, on a un parcours, par exemple, pour les personnes séparées ou divorcées, qui s'appelle Revivre, en plusieurs soirées. Et on aborde tout ça, et beaucoup d'échanges entre pères qui ont vécu ça. Et c'est animé par des personnes qui, elles-mêmes, ont vécu ces séparations. Donc, ils sont vraiment à même d'être dans l'écoute,
pouvoir témoigner,
dans l'empathie, dans le témoignage, etc. Ça rencontre énormément de succès, ces propositions-là.
J'imagine, ouais.
Parce que les personnes sont souvent effondrées, ça permet de se remettre debout, de pas se sentir seul, isolé, à des moments quand même très douloureux dans la vie. Voilà, j'oublie sûrement d'autres initiatives.
Oui, vous avez oublié mon petit coup de cœur pour l'afterwork des papas.
Ouais, c'est ça. On a aussi des groupes de parole pour les enfants dont les parents se sont séparés. Parce que le parcours Revivre, ben, les gens nous disent « oui, on en a vraiment besoin », etc. Je leur dis « est-ce que vous ne croyez pas que vos enfants, ils ont aussi besoin d'un parcours Revivre ?» Ils disent « ah bah si, ben, bien sûr, mon enfant, c'est très difficile pour eux ». Et donc, on a ces groupes de parole pour accompagner les enfants qui se sentent pas seuls, ils partagent entre eux, ils rédigent une lettre aux parents disant « voilà ce qu'on vit ». Et donc, là où un enfant pourrait avoir du mal par loyauté envers son papa ou sa maman à pas lui dire « moi, tu sais, c'est dur ça » parce que il voit qu'ils sont en difficulté, ils veulent pas enfoncer le truc. Quoi.
Bien sûr, hein.
Et donc là, il rédige une lettre commune et à la fin du parcours, les parents assistent à la dernière heure du parcours. Et donc, on leur décrit ce qu'ont vécu leurs enfants, etc. Puis on dit, vos enfants ont des choses à vous dire. Et donc, l'animateur retranscrit tout ce que les parents ont à dire aux parents, en disant, c'est dur pour nous aussi, on vous demande une chose, passez pas par nous pour vous passer les messages, par exemple, etc. etc. C'est magnifique. Moi, j'ai assisté à des séances comme ça, on a les larmes aux yeux.
Ah bah, c'est clair.
Tellement ça accompagne les enfants, eux aussi, qui traversent des choses compliquées.
Il y a un déclic, quoi.
Oui. Effectivement.
On nous demande où se trouve la maison Familia à Paris. Est-ce que vous auriez une...
Oui, elle est au métro Saint-François-Xavier,
okay.
Rue Oudinot.
D'accord.
De mémoire, c'est le 25 rue Oudinot.
Okay.
Vous tapez familia-paris.fr. Ou,
okay.
Le mieux, c'est pour accéder à toutes les maisons, Familia, familya.fr. C'est notre site institutionnel, mais ça vous oriente vers les différentes maisons dont j'ai parlé tout à l'heure.
C'est la porte d'entrée, en effet, et c'est un moyen aussi de découvrir, je m'imagine, le panorama de toutes les prestations que vous êtes susceptible d'offrir.
Exactement. Alors, c'est pas toutes les mêmes
c'est
dans toutes les maisons.
C'est plus une question de vision ou de façon de penser ou de façon d'accompagner qu'un panel de prestations. Si...
Alors, ça, c'est sur le site familia.fr. Mais le site ensuite, on renvoie vers le site de chaque maison. Et dans chaque maison, là, vous avez, si je suis parent, voilà ce qui m'est proposé. Si je suis en couple, voilà ce qui m'est proposé, etc.
C'est ça. Alors, prenons quelques cas, là, par exemple. Un célibataire, ça fait 20 ans qu'il est célibataire, il ne trouve pas l'amour. Est-ce que vous avez une solution, une prestation?
Alors, il y a plein de choses. Ça peut être, on a des journées pour célibataires.
Ok.
Voilà. Voilà, on a, il y a des célibataires qui sont en difficulté pour des tas de raisons. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont jamais arrivés à construire une relation, jamais démarré. Il y en a qui viennent qui vont de relation en relation, mais qui arrivent pas à trouver une relation durable. Ils peuvent être, alors ça c'est important que je dise, ils peuvent être accompagnés par un conseiller conjugal, parce que le mot est pas très bon.
Voilà.
Et évidemment. Les personnes seules, c'est à peu près 25% des entretiens en conseil conjugal.
D'accord.
C'est des personnes qui viennent seules. Alors elles viennent soit seules parce que le conjoint veut pas venir avec elles, soit parce qu'elles sont solo et elles disent je vis mal cette situation, soit parce qu'elles se disent ben ça fait 3-4 fois que je vis un échec. Il y a sûrement des questions à poser sur moi, sur ma posture, sur mon histoire, mes blessures d'enfance, mes soucis, mes cela.
Donc, chers auditeurs, donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi vous rendre dans les maisons familiales.
Je suis très étonné.
Autre chose aussi, exemple.
Ma femme qui est conseillère conjugale, à un moment, on a reçu
beaucoup de célibataires.
Et elle a reçu beaucoup de célibataires. Et après, elle reçoit les faire-part de mariage. C'est très sympa.
C'est que c'est réussi.
C'est que ça marche.
C'est que ça marche.
Pour certains, ça marche. Pour d'autres,
c'est voilà, quoi la proportionnalité de résultats?
Alors, on a fait
le
une étude d'impact social.
Ouais.
On a ciblé quel est l'effet sur la trajectoire des couples de l'accompagnement au conseil conjugal et familial.
D'accord.
73% des couples qui envisageaient, en arrivant, de se séparer, ont restauré la qualité de leur relation et poursuivent ensemble.
Ah, bah, c'est pas mal.
Ah, c'est énorme.
C'est énorme, hein.
27%. Bah, si vous allez chez votre médecin, non. J'espère que dans 98% des cas, vous ressortez guéri.
Oui, en théorie, ouais. Donc, ça voilà. Dépend pour quelle pathologie.
Ouais, ça dépend.
Et ensuite, il y a des... Il y a une forte exigence.
Il y a des pathologies. Et puis, il y a 27% qui prennent, qui sont accompagnés et donc qui prennent la décision de se séparer.
De toute manière.
Voilà, qui disent, ben, ils discernent qu'il faut qu'ils se séparent.
On n'est plus fait l'un pour l'autre, quoi.
Voilà, ils disent, voilà, et donc ils le vivent comme un soulagement, quand même. Mais ce qu'ils disent, c'est que les trois quarts de ceux qui se séparent, à l'issue de l'accompagnement au conseil conjugal, disent, on se sépare de manière beaucoup moins conflictuelle que si on n'avait pas été accompagné.
Oui, donc,
ouais, c'est plus apaisé. Un,
voilà, et donc ça prépare le terrain, parce qu'on a décidé ensemble que c'était mieux. Plutôt qu'il y en ait un qui lâche. Et d'ailleurs, les médiateurs familiaux, moi, comme j'ai la double casquette, je l'ai vraiment vécu.
Ben oui.
Les médiateurs familiaux, ils identifient et leur travail est facilité quand le couple est passé par la case conseil conjugal avant.
Ah, d'accord.
Alors que quand ils ne sont pas passés par cette case, c'est plus compliqué d'accompagner les séparations.
Très bien. On a aussi l'exemple éventuellement de personnes de deux religions différentes. Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique?
Non, la question de la foi et de la religion est une problématique qui peut être amenée par ces personnes ou pas. Et donc, à ce moment-là, ben, ça va être travaillé avec le conseil conjugal. Et s'ils n'amènent pas cette question-là, c'est pas travaillé.
Ouais,
en fait, le conseil conjugal, il se saisit de ce que les personnes amènent.
D'accord.
Voilà. Okay.
Très bien. Et pour les jeunes retraités, vous avez aussi des accompagnements, hein, c'est ça on...
Ça s'adresse à toutes les étapes de la vie du couple. On a des sur notre chaîne YouTube, vous verrez, il y a des témoignages de couples jeunes, de couples beaucoup plus âgés, de couples qui arrivent à l'âge de la retraite. Donc, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour tomber malade, j'ai envie de dire, malheureusement. Ouais. Et donc, voilà.
Et vous accompagnez les veuves et les veufs aussi? Ça vous arrive?
Ça peut arriver, bien sûr. Bien sûr, c'est des personnes qui... traversent des moments très compliqués.
La solitude, notamment.
Voilà, et qui ont besoin de relire et de faire ce travail de deuil qui peut être accompagné par le conseiller conjugal et familial.
Très bien, on va terminer avec quelques questions, là, de l'équipe.
Oui, moi, j'ai une question, effectivement, pour les couples qui sont en difficulté. Quelle est un petit peu la place du pardon dans la démarche de réconciliation?
C'est souvent une étape indispensable parce que les gens qui arrivent, s'ils sont... en difficulté, c'est qu'il y a eu des blessures réciproques. Mmh. Tu m'as dit des choses qui m'ont blessé, tu as fait des choses qui m'ont blessé. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent suite à une infidélité. Et donc, forcément, il va falloir non pas dire « ça n'a pas existé, on oublie, etc. » Non, il faut traverser la difficulté, faire la vérité sur ce qui s'est passé et à un moment dire « ok, est-ce que malgré ça, malgré la blessure, on va continuer à s'aimer ?» Donner de l'amour malgré les choses qui ont été. Donner par-delà la blessure, donner par-delà, pardonner. C'est ça en fait l'origine du mot pardon.
Zaza.
Moi, du temps de mes grands-parents, je me souviens qu'ils allaient voir et consulter des gens dans un truc qui s'appelait la maison des parents.
Oui.
Est-ce que Familia, c'est l'ancêtre de la maison des parents?
Alors, je connais pas la maison des parents telle que vous me dites, mais il y a par exemple un grand mouvement qui s'appelle l'école des parents et des éducateurs, qui sont des maisons qui proposent un peu des choses similaires, peut-être moins de choses à tous les âges de la vie, mais il y a beaucoup d'autres organismes, on n'est pas les seuls acteurs dans ce champ-là. Dieu merci, notre spécificité, c'est peut-être d'être présent à tous les âges de la vie.
C'est ça.
Alors, petite question, c'est comment passe-t-on d'ingénieur chez Michelin à tout ce
conseiller
travail,
conjugal
Là, il faudra une autre émission.
Oui, c'est ça, parce qu'il nous reste peu de temps.
Il s'en est né. En deux mots, en fait, c'est une rencontre. La rencontre avec ma femme. Quand on s'est fiancé, on s'est dit à un moment, on se mettra au service pour que le monde soit meilleur.
Je savais bien qu'il y avait une histoire de femme.
Ça voulait tout dire, se mettre au service de quoi, etc. Ça voulait rien dire, on savait pas.
Ah, oui.
Et puis, y a pas, après qu'on soit marié, il n'y a pas une année où on ne soit pas redit, ça, même sous forme de boutade, à un moment. Puis à un moment, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend la retraite et puis on verra ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on réfléchit à ça? Et donc, on a pris le temps d'y réfléchir. On s'est assis, on a réfléchi, on s'est fait accompagner par des personnes jusqu'au moment où on a dit, en fait, nous, ce qui nous touche le plus, ce qui nous fait vivre, ce qui nous rend heureux, c'est la famille. Et en même temps, on constate que c'est le lieu aussi de grandes souffrances. Est-ce que c'est pas là qu'il faut qu'on s'implique, et c'est c'est ce qui nous semble essentiel dans la vie, entretenir des relations de qualité, et donc c'est comme ça qu'on s'est engagé. s'est formé, puis on s'est lancé.
Et donc du elle... coup, quand on est, pardon, excuse-moi, quand on est un homme et une femme, tous les deux conseillers conjugales, mariés ensemble, est-ce que c'est les cordonniers les plus mal chaussés ou pas?
On a fait beaucoup de sessions qui durent une semaine avec des moments qui s'appellent fondatio, qui proposent vraiment.
On les a reçus aussi.
Voilà, et des choses et on a pris soin de notre relation. Voilà, on sait que ça se travaille. Pour autant, on n'est pas à l'abri de s'engueuler. De... Bah, oui, on est un couple ordinaire.
Tout à fait,
voilà, mais on a peut-être des outils un peu pour traverser
pour
ça. Mais la prudence s'impose. On connaît des conseillers conjugaux qui se séparent, etc. Rien n'est jamais acquis. Et la construction, c'est toute la vie.
Et on
merci
est
à vous.
Elle court toujours, la maladie d'amour.
Allez, bah, c'est sur ces belles paroles que nous quittons. Nous revenons dans quelques instants. Merci à Thierry Véron-Lacroix
merci
d'être passé
beaucoup,
à nous voir.
Merci.
Allez sur le site familia.fr. On peut vous retrouver aussi sur vos réseaux.
Tout à fait. Facebook, Instagram. LinkedIn, un peu moins Instagram. On va venir, on établit notre stratégie.
Très bien, bah, merci à vous d'être passé en tous les cas dans la libre antenne All You Need Is Love.